Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt.
20h04 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour revenir sur toute l'actualité sportive locale et internationale. Aujourd'hui, c'est une émission chargée, alors sans transition, je vais présenter ceux qui sont avec moi, les chroniqueurs qui m'accompagnent. À ma gauche, Faustin Microbleu. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, bah, ça va très bien.
Un week-end de victoire encore?
Encore une fois.
Oh là là, mais on ne vous arrête plus. Hein. Ouais, j'imagine pas. Premier.
Bah évidemment. Évidemment. Zéro défaite.
Donc, zéro défaite. Ah la vache, c'est très fort. À ma droite, micro blanc, Cédric est avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va nickel.
Ah, t'as passé un bon week-end?
Ouais, j'ai encore perdu du temps, comme beaucoup de monde, je pense, avec le combat de Lyoka.
Ouais, peut-être, ouais.
Mais voilà, non, après... On a eu quand même des belles surprises ce week-end.
Ouais.
La victoire de l'équipe de France.
15 de France, voilà. Un petit peu dessus.
Qui est un peu historique, on va dire.
Exactement. Voilà.
Mais ouais, puis bon. Malgré, on va dire, encore une mauvaise actualité pour le foot, on a eu au moins des bonnes nouvelles du côté du hockey.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, personnellement, j'étais au match d'ailleurs hier des Ducs d'Angers, donc on reviendra un petit peu sur la rencontre qui a été très très tendue. Évidemment, on reparlera de ça. Donc, pour reparler un petit peu justement du sommaire de l'émission, on va commencer évidemment par le SCO d'Angers. On en dira vite fait deux petits mots. On parlera également donc de basket avec Faustin et puis avec Max qui nous a préparé un petit reportage depuis Mont-Marsan. Voilà, il était à la rencontre entre Basketland stand Elufab 49. Et donc voilà, il nous a préparé quelque chose. Donc c'est l'occasion de le retrouver donc sur cette émission. Et puis évidemment, on parlera des Ducs d'Angers, mais aussi du Square Handball qui a signé une très belle victoire ce week-end. Ensuite, dans le sport international, pareil, encore un programme très chargé. Au football, on a de la Ligue des Champions. On parlera peut-être un petit peu de l'éviction de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. Et puis évidemment, tu l'as dit Cédric, le rugby et cette belle victoire du 15 de France à Twickenham. On parlera évidemment basket avec Faustin. On dira donc un petit mot de boxe et ce combat de Tony Yoka qui avait lieu samedi soir. Et puis pourquoi pas aussi parler notamment de l'athlétisme avec la mort de Dick Fosbury, l'inventeur du fameux saut le plus connu dans le saut en hauteur. Et puis voilà, à noter avant de commencer que c'est aujourd'hui J-500. Voilà, le compte à rebours est lancé avant les JO de Paris 2024. Voilà, vous êtes impatient à l'idée des JO?
Ah oui, avec la belle opération Envie de la Seine pour bien la nettoyer pour que ça devienne une piscine.
Oui, assez bizarre ce projet. Et puis surtout, on va remettre des bateaux pour la cérémonie. Enfin,
oui.
C'est toujours un peu bizarre, mais bref, on a le temps évidemment de parler pendant des semaines encore de ces fameuses Olympiades qui arrivent à Paris l'année prochaine. On va commencer sans plus tarder avec le SCO. Après une semaine très mouvementée, le SCO était plus qu'attendu à l'occasion de la réception de Toulouse dimanche après-midi. En amont, et on reviendra peut-être sur ses déclarations, Saïd Chaban s'est exprimé au micro de Prime Video pour dénoncer les propos de son désormais ex-entraîneur Abdel Bouazama et pour expliquer selon lui à la situation sportive dans laquelle est le club. Il assume sa responsabilité sur cette situation et regrette de ne pas avoir prolongé plus tôt dans la saison dernière les historiques du club comme Romain Thomas, Ismaël Traoré ou encore Thomas Mangani. Le matin même, les supporters du SCO avaient manifesté contre la direction et la veille, ils avaient dissimulé partout en ville voilà, des messages cinglants contre justement cette fameuse direction. Pour revenir aux sportifs, la tendance ne s'est pas inversée au stade Raymond Coppa. Les SCOistes se sont créés quelques occasions sans jamais les convertir et ont fini par encaisser deux buts en fin de première mi-temps et en début de deuxième. Deux buts signés Dessler et Dalinga qui ont entériné la 21e défaite SCOiste de la saison. Le prochain entraîneur du SCO ne devrait être connu que fin avril. Et en attendant, les joueurs d'Alexandre Dujeu préparent une fin de saison plus que compliquée avec un gros calendrier qui les attend en plus d'une relégation probable. Justement, je disais, ces propos de Saïd Chaban sur justement cet échec au niveau des prolongations de contrat des historiques du club, on en avait un petit peu parlé auparavant, mais est-ce que tu penses est-ce qu'il a raison sur ce point? Ils auraient dû prolonger beaucoup plus tôt.
Ça sent le parapluie, quoi. Il sent que ça y est, c'est fini pour lui. De toute façon, je vois pas comment il peut rester après cette déroute aussi bien sportivement que, on va dire, humainement, hein, du club. Oui, c'est facile de dire une fois que t'es dans le trou on aurait dû peut-être les prolonger. Oui, sauf qu'on savait très bien que la réalité était tout autre. C'était soit on les prolongeait. Mais bon, on jouait directement la Ligue 2. Voire peut-être national. Et du coup, on passait pas la DNCGR. C'est sûr, maintenant, de toute façon, mal est fait, donc il peut que dire que c'est ta faute. Mais qu'est-ce que ça va changer pour le club? Rien, pour l'instant.
Rien, pas d'évolution.
Non, je pense pas c'est pas ce qui va faire réagir forcément les joueurs.
Ouais.
Parce que bon, voilà, rien. Sur ce volet-là, on va pas le cacher non plus. Il y a autant la faute des joueurs que du recrutement. Je pense qu'il y en a certains, voilà, qui auraient peut-être pu relever un peu mieux l'équipe.
Ouais.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça courait. Dès le début de la saison, ça puait. Bah, voilà. C'est tout à fait logique.
Ouais, finalement,
t'as l'impression que ça a été écrit et puis.
Mais sur le terrain, tu parlais des gros salaires évidemment, mais est-ce que sur le terrain, moi je pense surtout à Traoré Thomas qui était une charnière centrale qui marchait beaucoup, et quand on voit Blažić ou Tounji, on se dit qu'il y a des problèmes. Est-ce que tu penses que sportivement au moins on n'aurait pas pu faire mieux? Moi je pense que si, au moins au niveau défensif.
Ah oui.
Toi Faustin aussi, t'hésites pas.
Bah, hein, ça, on aurait pu, ça c'est sûr, mais je te dis, le problème c'est qu'à chaque fois on sait pas recruter ou on sait pas faire en tout cas pour que les joueurs restent, ou on préfère les vendre, on préfère je sais pas cette année combien il y a de joueurs de la réserve qui ont été montés en équipe pro. Il y avait peut-être aussi ces pistes-là, il y avait peut-être des petites pépites qui auraient pu voilà faire un peu plus d'expérience. Alors on sait comment ça se passe, hein, on l'a vu un peu avec Pépé quand il a éclos la première année.
Ouais.
Dès la première année, on a réussi à le conserver une année de plus, mais sinon il aurait pu partir direct. Mais au moins le fait qu'il soit venu comme ça, il a pu voilà prendre une valeur ajoutée. Et derrière, quelque part, oui, on sait que de toute façon on peut pas des joueurs comme ça les conserver.
Ouais.
Mais ça permet d'avoir une malle d'argent.
Bien sûr.
Assez important, qui permet derrière de racheter, on va dire, 2-3 joueurs moyens pour compenser. Parce que voilà, on peut pas forcément aller chercher des top players. Avec le budget. Oui, on reste quand même le plus petit budget de la Ligue 1.
Ouais.
Depuis. Alors, ça fait 8 ans qu'on est en Ligue 1.
Ouais, 8 ans. Ouais, 8 ans.
8, ouais,
c'est 7, je pense.
Ouais, voilà. Enfin, on a toujours été le plus petit budget. On a bien su le gérer pendant un moment. Et là, il y a eu ces envies de grandeur aussi. Je pense qu'il y a un truc aussi qui a un petit peu ruiné le club. C'est le projet de la tribune.
Ouais.
Mine de rien. Bah écoute, oui.
Oui, en termes d'argent, oui, tu veux dire.
En termes, oui. Donc du coup, forcément, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans les joueurs. C'est sûr, normalement, la tribune, si elle fonctionnait, effectivement, c'est une manne financière qui pouvait être intéressante. Après, quand voilà, dans les déclarations, t'en as pas trop parlé, mais il parle aussi de la vente hypothétique du club.
Qui n'a pas abouti.
Oui, mais on sent que derrière, il n'a qu'une envie, c'est maintenant que ça a bien cramé, que c'est bien en train de retomber, bah hop, je me débarrasse du bébé avec l'eau du bain, quoi.
Ouais, ouais. Faustin, toi, t'en penses quoi? Sportivement, ça aurait pu faire la différence?
Je pense d'arriver surtout que ces joueurs-là, c'est des joueurs qui parlaient dans le vestiaire.
Ouais, surtout,
ça,
ouais.
C'est ce qui manque au SCO, un peu de rage de vaincre. La Dallangevine qui manque un peu cette année à nos joueurs, et c'est ce qu'ils apportaient beaucoup, avec qui sûrement parlaient beaucoup sur le terrain, ces joueurs, avec l'expérience qu'ils avaient. Et là, à part Pierre Capel, je vois pas qui. Il n'y a pas de vrai leader qui sort de cette équipe, quoi.
J'ai oublié mon micro. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que Pierre Capel, il en parlait justement, Saïd Chaban, c'est le seul qu'il a réussi à garder ici à Angers. Et aujourd'hui, on a bien vu le résultat. On va enchaîner sans plus tarder. Faustin, je vais te laisser la main pour parler un petit peu du basket. Et avec donc, voilà. Par quoi tu veux commencer déjà?
Je vais commencer par le AB.
Ouais, vas-y, c'est parti.
Voilà, le AB, c'est pas une bonne semaine pour nos Angevins qui ont perdu leurs deux matchs. Le premier, c'était contre La Rochelle, c'était il y a exactement une semaine, et match qui s'est fini sur le score de 88 à 95 en faveur des Rochelais. Le deuxième était un derby des Pays de Loire, car les Angevins se déplaçaient à Nantes et ont malheureusement subi une nouvelle défaite, 85 à 79. Leur prochain match aura lieu à Évreux vendredi à Jambouin.
Je fais le basket.
Pour
être tout à fait franc avec nos auditeurs, j'essaie de diffuser de mettre en diffusion potentielle le sujet de Max, mais ça, la technique m'échappe un peu, mais c'est pas grave. Donc, Cholet basket.
Du coup, semaine mitigée pour les Choletais qui ont commencé en s'inclinant en quart de finale de Coupe d'Europe face au Boudivelnik, excusez-moi pour la.
À tes souhaits.
Ouais, voilà, de Kiev, une équipe ukrainienne, sur le score de 73 à 72. Le match retour a lieu en ce moment à la Mairie, et les Choletais n'ont donc qu'un point à remonter pour viser une qualification en demi-finale. Actuellement, ils sont en bonne voie car ils mènent 23 à 16 à 18 secondes de la fin du premier quart-temps. Leur deuxième match a eu lieu contre Limoges, et les hommes de Laurent Villa se sont une nouvelle fois imposés en Betclic Elite sur le score de 82 à 65, consolidant ainsi leur troisième place au classement, en prenant deux victoires d'avance sur les Dijonnais.
Et puis Fab, pour le sujet, on verra après la pause musicale. Je suis désolé.
Donc les Angevines ont su se reprendre de la meilleure des manières après leurs deux défaites consécutives contre l'ASVEL en s'imposant à Mont-de-Marsan contre Basketland, créant ainsi la surprise. Elles se sont donc imposées sur le score de 75-71, mais restent cependant toujours dans les quatre dernières du classement et sont donc éligibles au play-down. Leur prochain match aura lieu jeudi contre Landerneau à Jambouin.
Ça marche. Et donc pour rester donc bien pour la suite de la Génération Sport, on a un petit reportage préparé par Max depuis Mont-de-Marsan. On va maintenant parler un petit peu de handball avec le SCO. Alors c'est une équipe du SCO qui est un petit peu mieux que celle du football, puisque le SCO handball a véritablement fait un grand pas vers la montée en Pro League. On savait que le SCO voilà n'a perdu que deux fois cette saison en 17 matchs, et puis voilà le 18e qui s'est aussi soldé par une victoire. Et là c'était une victoire importante puisque c'était à domicile contre le Dauphin Annecy. Annecy qui est coaché, on le rappelle, par Guillaume Dupin, l'ancien entraîneur angevin. Voilà le SCO qui non seulement voilà fait une très belle opération au classement, et puis qui mentalement aussi pourra se satisfaire d'avoir remonté. Et oui, ils ont complètement remonté, inversé la tendance face à des Annecyens qui gagnaient à la mi-temps 20-15, et voilà rapidement dans le début de deuxième, ils ont repris l'avantage et pour finalement s'imposer 33-29. C'est une victoire qui donc leur fait conserver cette première place et qui va leur permettre d'aborder la fin de ce championnat un peu plus sereinement en mettant un adversaire direct assez loin. On va parler maintenant un petit peu de hockey sur glace. Ce vendredi débutaient les quarts de finale de play-off de Ligue Magnus avec les Ducs d'Angers qui affrontaient les Boxers de Bordeaux en terre girondine. Les matchs les deux matchs de vendredi et samedi ont été très bien négociés par les Ducs avec deux premiers succès, 6-1 puis 2-1. Hier, les Ducs recevaient à l'Ice Park les Bordelais pour tenter de se rapprocher de la qualification en demi-finale de Ligue Magnus. Dans cette partie dominée et maîtrisée dans l'ensemble par les Angevins, les joueurs de Jason O'Leary ont annihilé les occasions bordelaises avec une défense impressionnante et un Evan Collet des grands soirs dans les cages. Le match a aussi été marqué en fin de match par une grosse tension entre les deux formations. Deux joueurs des deux équipes ont retiré casques et gants pour se battre devant les yeux des arbitres qui ont attendu que l'Angevin plaque le Bordelais au sol pour intervenir. En tout cas, les Ducs ont assuré sur la patinoire une victoire 5-2 pour s'offrir une occasion de rejoindre les Dragons de Rouen en demi-finale de Ligue Magnus. On sait que les Dragons de Rouen se sont qualifiés hier après une quatrième victoire en quatre matchs lors de ce premier tour. Et puis voilà, Angers qui ce soir, Cédric, peut d'ores et déjà valider son ticket pour les demi-finales.
Ouais, soit ça joue ce soir, ça se joue demain. Parce qu'en cas de victoire de Bordeaux, le prochain match jouera aussi à Angers.
Ouais.
On va dire quand même deux matchs, avec un score fleuve, on va dire. Le match 2 qui a été peut-être un peu plus compliqué au final.
Ouais.
Voilà, ça se voit avec l'écart qu'il y a eu.
Et puis il y a eu une prolongation, il me semble.
Mais on est généralement habitué à réussir face à Bordeaux. Derrière, c'est Rouen. Il y a un petit goût de l'année dernière, j'ai envie de dire, parce que l'année dernière c'était déjà ça pour l'ennemi. Prenons le match sérieusement, je pense, ce soir. Voilà, est-ce qu'on fait tourner ou pas, ça c'est toujours compliqué, mais en tout cas, voilà. Plutôt la qualification va être assurée, plutôt on va pouvoir se reposer.
Ouais.
Et éviter des petits soucis de patinoire, voilà.
Ouais.
Mais du coup, c'était ta première expérience à l'Ice Park.
La dernière remontait à longtemps, on va dire.
Du coup, t'en as pensé quoi?
Donc c'est un sport que je connais pas forcément. Enfin, je connais évidemment les bases, mais voilà, donc je suis pas très habitué. Et l'agressivité en fin de match m'a surpris. Elle m'a surpris. Je savais que c'était un peu dans les mœurs de ce sport, voilà.
C'est rare quand même, que ça, surtout en France, que ça arrive.
C'est pour ça que pour préciser à nos auditeurs, à la fois c'est on verra pas ça dans d'autres sports,
non,
ce qui s'est passé, mais à la fois en France c'est quand même plutôt rare. À Angers récemment il y a eu que Grenoble où ça s'est très mal fini, mais dans l'ensemble il y a ça souvent.
Oui, puis même
en bonne ambiance
contre Grenoble, les deux fois où ça a été chaud. Il y a pas eu de coups comme ça qui ont été portés, il me semble, de mémoire.
Ouais, c'est ça. Toi, t'étais pas au match du tout?
Non, j'ai pas
non,
encore.
Non, mais t'as pas vu non plus, mais.
Non,
mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut voir, notamment, je sais pas si certains ont vu sur les réseaux, voilà, des images de hockey où, voilà, clairement, ça enlève les gants, ça enlève les casques et bon, il y a plus de hockey, il y a que de la bagarre. Enfin forcément quand tu vois ça en vrai c'est un peu bizarre quoi, c'est j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe quoi, c'était
généralement t'as un bas instinct, c'est que t'es content que ça arrive quoi.
Ah oui
t'es limite, t'attends ça, tu veux voir que ça presque, et quand ça arrive t'exploses de joie parce qu'il y a une baston,
c'est ça.
Alors que ça sert à rien, mais
ouais, c'est ça, ça sert pas à grand chose,
c'est
hein.
Le côté un peu festif,
ouais, c'est ça.
Il faut clos du hockey quoi. Quand ça tape réellement, et puis
disons que c'est vraiment ce sport où les commentateurs peuvent dire c'est des images qu'on aime bien voir hein, c'est souvent quand même normalement l'inverse, mais en tout cas voilà, c'est vrai que les Ducs ont réalisé un très beau match hier. Je trouve qu'ils ont été, justement, j'en parlais, impressionnants défensivement. Déjà un très beau match du gardien, et puis même Bordeaux était dangereux, mais pas tant que ça. Ils ont quand même marqué sur des bonnes occasions. Mais voilà, Angers a été dans l'ensemble à maîtriser son match, je trouve. Et voilà, aussi fait preuve de réussite quand même sur certaines actions, faut le préciser. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une très belle performance des Ducs, une très belle ambiance. On était 3500.
Oui,
hier.
C'est
du classique.
Sold out, ouais.
Ouais, il y a, c'était du classique. Après, voilà, il y a toujours les tribunes un peu partenaires qui sont parfois un peu vides.
Oui, voilà.
Mais en tout cas, voilà, c'était une très très belle ambiance, toujours chaleureux.
Et t'étais plutôt côté COP ou partie centrale un peu?
Disons que j'étais en face des partenaires.
D'accord, parce oui.
Tu vois un
t'étais
peu.
T'étais dans la ligne droite, on va dire, des
c'est
tribunes,
ça, ouais.
Voilà.
T'avais
en fait un COP de chaque côté, quoi.
Exactement. J'étais pas humble pour te situer, j'étais plus proche des Raptors.
Des Raptors, d'accord. Oui.
Les Pucks étaient de l'autre bout. Et ça chante des deux côtés, hein, je trouve.
Oui, ça.
Les deux, ça se vaut.
Ça.
Disons que, on va dire que les Pucks c'est plus constant et les Raptors c'est plus fort en termes de bruit.
Ouais.
Mais en tout cas, ouais, non, c'était hyper sympa, hein, bien sûr, évidemment. Puis on voit surtout Angers gagner, donc c'est toujours intéressant. Mais ouais, on apprend. Puis il y a des règles aussi qu'on apprend. Qu'on voit assez rapidement en tout cas, mais voilà, c'est vrai que c'était hyper intéressant de voir ça, et puis voilà, surtout c'était un match important pour les Ducs, parce que clairement aujourd'hui ils vont tout donner pour aller chercher ce match,
oui, c'est...
et puis il y a aussi cette rencontre qui a lieu demain, qui est ce soir pardon, on va peut-être voir si ça évolue dans ça commence à
20h30. Ça commence à 20h30, ouais.
Voilà, donc on verra si ça évolue. C'est un match hyper important, attention aussi parce que Bordeaux est au pied du mur. Bordeaux s'est embrouillé hier, il y a eu donc des grosses embrouilles, notamment celui qui s'est battu, c'était un ancien Angevin qui a pas été très apprécié au club, et donc voilà, peut-être que les Bordelais auront, voilà, peut-être avec une mauvaise mentalité, on ne sait pas, mais voilà, on va pas leur prêter ça avant.
Non,
de,
je pense qu'en
avant
tout
que
cas,
le match commence,
mais
en
ça,
tout cas,
ça va servir de levier de motivation pour aller,
ouais, bien sûr, pour
empêcher
aller
ce 4-0.
Je pense
quoi.
Que voilà, si ça avait été sans animosité, bon bah peut-être qu'ils auraient un peu lâché du lest en se disant bon c'est le dernier, même si bon c'est jamais.
Tout est possible. Hein,
c'est possible. Et là, c'est peut-être qu'ils ont la rage de dire au moins on va les faire chier, on va leur prendre de l'énergie et on va essayer au maximum de. De le mettre en difficulté. Donc voilà pour les Ducs d'Angers. En tout cas, au niveau du sport local, je pense que on a fait le tour. On va maintenant passer à une petite pause musicale et puis on va se retrouver juste après avec notamment l'actualité internationale et puis ce petit reportage que Max nous a proposé, et on se retrouve juste après. Feed my socks. Oh, 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 oh.
See me fall, see me close. Shake me till I fall.
retour dans Génération Sport après cette brève pause musicale. On est de retour donc avec Cédric et Faustin pour parler de sport international. Mais avant ça, on va écouter tout de suite, sans plus tarder, le reportage que Max nous a fait depuis la salle Mitterrand
de Basketland.
Voilà, ça. Merci beaucoup Faustin à Mont-de-Marsan. Et puis on se retrouve juste après.
C'était l'heure de la revanche entre Basketland et l'UFAB après l'élimination des Angevines par les Montoises en quart de finale de Coupe de France il y a quasiment un mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a vécu un drôle de match ici à l'espace François Mitterrand, l'antre de Basketland. Comme à chaque match, guichet fermé, et comme à chaque match, les supporters sont au rendez-vous. Plus de 2000 personnes chantent, crient et vibrent pour leurs joueuses. Et pourtant, douche froide d'entrée, quelques secondes de jeu et 3 points de Jody Corneli. C'est bien les joueuses de l'UFAB qui font le jeu dans le premier quart-temps. Heureusement pour Basketland, Marine Fotoux a réalisé un très grand match. De panier à 3 points pour elle dans les toutes premières minutes de jeu. Un premier quart-temps plutôt serré dans le score, sauf à la fin où Angers arrive à prendre 4 points d'avance, 24-20 à l'issue de ce premier quart-temps. Les deux autres quart-temps vont se ressembler avec un constat plutôt alarmant qui descend des tribunes. Basketland rate tout. Des passes qui finissent dans les mollets, des shoots sans conviction, des courses qui ne sont pas faites jusqu'au bout. Pour illustrer ce mauvais match, Céline Dumerc, l'immense joueuse qu'elle est, passe totalement à côté de ce rendez-vous du soir. 0 point pour la meneuse. Pareil pour la capitaine Marie-Ève Paget qui n'est pas dedans non plus. Elle n'a pas l'influence qu'elle apporte d'habitude à ses coéquipières. Les supporters montois sont à cran et savent que leurs joueuses ne font pas un bon match. De son côté, l'UFAB joue bien et exploite au maximum les faiblesses de leurs adversaires. 60-47 à la fin du troisième quart-temps. Le public n'en croit pas ses yeux. Les joueuses de Basketland vont pourtant faire espérer toute une ville en faisant un dernier quart-temps presque impeccable. Accompagné par le bruit des fanfares et des supporters déchaînés, Basketland revient même à 1 point à 4 minutes de la fin du match. Finalement, l'UFAB était au-dessus. Victoire finale des Angevines, 75-71. Seul point positif côté Basketland, Marine Fotoux, 25 points et 5 passes décisives. Meilleure scoreuse du match. Et puis, MVP, Jasmine Bailey, 7 points, 11 rebonds et 5 passes dé pour l'américaine. Au classement, Basketland perd une place et prend la 6e place de LFB. L'UFAB reste à la 9e place, mais compte désormais seulement 2 petits points de retard sur son adversaire du soir. Et voilà, c'était mon analyse de ce match Basketland-Angers. En tout cas, à chaque fois, on vit des moments d'émotion assez incroyables en regardant Basketland. Merci à vous, les gars. Je vous souhaite une très bonne émission. Et puis, comme on dit ici, Adi Schatz.
Eh bien, Adi Schatz, à toi aussi, Max. Max, qui est vraiment devenu un vrai Gascon, un vrai mec du Sud.
Ouais, mais il aurait pu nous envoyer les spécialités du Sud aussi, hein.
Ah bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as aimé comme spécialité du Sud?
Ah bah je sais pas, mais il y a de la bonne gastronomie. Hein.
Ah bah oui, du bon jambon.
Entre le jambon de Bayonne, enfin, il y a beaucoup de choses. Hein.
Beaucoup de spécialités, peut-être voilà. qu'il pourra nous en ramener. Mais en tout cas, merci à lui déjà pour avoir pris le temps de le faire. Donc ce petit reportage, lui, il était un petit peu, il m'a raconté qu'il était un peu tombé amoureux de cette salle où voilà, il y a une vraie chaleur, une vraie ambiance. On avait parlé à Nabafouana qui justement relatait okay. un peu ça et qui disait que oui, c'était potentiellement la meilleure ambiance en France. Si on revient au point de vue sportif, Faustin, cette victoire a fait beaucoup de bien à l'UFAB après 3 défaites consécutives contre l'ASVEL notamment.
Oui, c'est clair que après ça, c'était le meilleur moyen de redonner un coup de boost pour essayer de sortir de cette vague négative qu'elles avaient prise juste avant et pour essayer de sortir aussi du play-down. C'est pas encore chose faite, mais c'est justement Nabafouana qui nous le disait il y a 2 semaines, ouais. Qu'elle jouait chaque match comme une finale pour pouvoir sortir justement du play-down et accrocher les play-offs, et c'est ce qu'elles ont très très bien fait à Basketland. Ouais.
Non, puis l'avantage, c'est que voilà, sur le papier, c'était pas forcément évident d'aller gagner ce match-là.
Très grosse perf. Mais on parle de Céline Dumerc, de Marine Fotou, la plus grosse espoir du basket féminin français. On parle de Marie-Ève Paget, qui est capitaine des Bleus. On parle de grandes joueuses qui étaient du côté de Basketland, et la victoire, évidemment, d'un danger qui est plutôt, plutôt belle.
C'est que du coup, ça permet d'avoir des jokers. En cas de contre-performance sur des équipes qui vont être, je sais pas au niveau du calendrier si on va jouer des adversaires directs ou pas.
Prochain match, c'est Landerneau, c'est jeudi, c'est à Angers en plus. Et Landerneau qui est 11e, on est actuellement 9e à égalité avec la 8e place. Donc tu vois, rien n'est joué. Ça va être un vrai match décisif.
Mais bon, on sait, ce qu'on ne leur souhaite pas, mais en tout cas, une contre-performance, par exemple, sur le prochain match. Voilà, tu sais que ton joker, tu l'utilises sur ce match-là, on va dire. Et derrière, tu peux repartir sur une série où tu ouais, joues tout à
je
fond.
Je pense qu'il y a quand même intérêt à gagner.
Ah oui,
non, parce ouais, que elles auront pas de.
Oui, mais tu vois, le fait d'avoir joué un gros.
Ouais, puis surtout,
ça t'enlève
ouais,
une épine de.
Oui, oui.
En termes de.
Ça, c'est toujours une victoire de prix, c'est ça que
voilà,
je veux dire, voilà.
En termes de calendrier aussi.
Ouais.
Parce que derrière, je sais pas pareil, il faut voir contre qui.
Elles ont joué déjà pas mal de grosses équipes sur la phase retour du championnat. Et puis c'est vrai qu'Angers, voilà, cette année avait beaucoup de mal face aux grosses équipes. Et là, ils ont prouvé qu'elles étaient capables quand même encore une fois de faire des gros trucs. Aujourd'hui, là, il reste 6 journées. Ça joue Landerneau, donc qui est en dessous de l'UFAB, Tarbes qui est à égalité juste au-dessus, Toulouse qui est dernier. Après c'est Villeneuve d'Ascq, Charleville-Mézières qui sont des grosses équipes et après on termine face à un derby contre Roche-Vendée avec les filles qui avaient gagné à l'aller. Je crois que c'était d'ailleurs là-bas du côté de La Roche-sur-Yon. En tout cas voilà, c'est vraiment une saison qu'on va suivre avec attention. Et donc voilà, c'est toujours cool de faire un gros point sur ce club. Donc prochainement de toute façon dans à peu près deux émissions. Il y aura sûrement une joueuse de l'UFAB qui sera avec nous pour parler de tout ça. En tout cas, on va pouvoir enchaîner sur le football international sans transition avec ce soir le retour de la Ligue des Champions avec deux affiches indécises. Leipzig se déplace à Manchester pour y défier les Citizens après le nul à l'aller et Porto reçoit dans le même temps l'Inter après leur courte défaite 1-0 au match aller. La semaine dernière, le PSG n'a pas pu rattraper son retard d'un but face au Bayern Munich et a même perdu la rencontre 2-0 à l'Allianz Arena. Il s'agit de la 5e défaite au stade des 8e de finale de la compétition en 7 années de participation. Messieurs, quel était votre c'était vraiment le gros match qu'on attendait. Quelle était votre réaction après cette élimination? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que cette élimination est peut-être encore plus navrante? Je sais pas. Quel est votre sentiment? L'indifférence?
Ouais, j'étais pas ouais, si étonné finalement.
C'est ça.
Mentalement, j'étais prêt quoi. Genre,
ouais, t'étais prêt.
Ça fait bah depuis que le Qatar est arrivé qu'on sort en 8e à chaque fois quasiment. Enfin non, peut-être pas non plus, mais un sacré nombre de fois. Ça a dû être 4-5 fois en 8e. Donc c'est décevant toujours. Mais bon, on s'y habitue au final.
Ouais, c'est ça. Avec le PSG, on s'habitue toujours à une élimination en 8e de finale. Cédric, toi, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, habitué?
Ouais, enfin, habitué, non, mais il y a quand même du mieux, je trouve. On se fait pas sortir non plus sur un score si large que ça.
Comparé à 3-0, cumulé, score cumulé.
Oui, mais bon, si tu...
Et sachant que le PSG est favori à la base.
Ouais,
pas un favori à la victoire finale.
Tout le monde est, enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es favori sur le papier, tu vois, que tu confirmes. Mais en soi, ça aurait pu être une plus grosse déroulée dès le premier match.
Ouais.
Quand tu sors tout premier match, hein, parce que bon, sur le deuxième, je l'ai pas vu du tout, donc je pourrais pas juger réellement. Mais voilà, enfin. Tu regardes, ça prouve juste que c'est plus des fois sur la politique en fait de transfert.
Ouais.
Et on le voit, hein, c'est un ancien de la maison qui a fait mal au PSG. Et comme oui, souvent, comme à chaque match, quasiment.
Avec Maxime Choupo-Moting.
Choupo-Moting, voilà, à chaque fois qu'il joue contre le PSG, il fait mal.
Ouais, ouais.
Il fait mal. Et on l'a vendu parce que, soi-disant, il n'était pas dans les plans.
Ouais.
On le faisait pas assez jouer, alors que voilà, on avait peut-être des pépites au PSG.
C'était un bosseur et tout.
Et c'est un peu, je dirais, c'est plus ça qui fait mal au final, c'est que, bah, on voit que les différentes politiques de transfert et de recrutement, bah.
Ouais. Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Et puis bon, on se rend compte que, ben, bah, il y a peut-être certains joueurs qui sont là, en fait, au final, juste pour le chèque, et puis, on en parle oui, cet été, mais qui partiront peut-être, vers les États-Unis.
On verra. Ça, c'est vrai que ça nécessite un plus long débat. On viendra peut-être dans une autre émission. En tout cas, voilà pour le PSG qui a donc été éliminé. Pour les autres qualifiés pour les quarts, on retrouvera l'AC Milan, tombeur de Tottenham, Benfica, qui s'est facilement débarrassé de Bruges, et Chelsea, qui a su inverser la tendance contre Dortmund. Demain, le Real défiera Liverpool avec 3 buts d'avance, et Naples recevra Francfort avec un avantage de 2 unités. L'autre grosse information football de la semaine, c'est le départ de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. À l'issue d'un comité exécutif exceptionnel, l'ancienne entraîneur de Clermont a été démise de ses fonctions. Pour rappel, Wendy Renard, Marie-Antoinette Katoto et Khadija Toudiani avaient mis entre parenthèses leur carrière internationale pour impulser des changements au sein du staff des Bleus. Donc voilà, c'est officiel, Corinne Diacre n'est plus sélectionneuse des Bleus, et celui qui est pressenti, c'est Gérard Prêcheur, l'actuel entraîneur du PSG. Hervé Renard est aussi dans les tuyaux. Messieurs, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, évidemment. Alors certains disaient qu'effectivement Corinne Diacre, c'était un management assez dur, que sportivement il n'y avait pas assez de bons résultats, qu'il n'y avait pas assez d'idées dans le jeu, et qu'il y avait aussi pas mal de bisbilles, de conflits avec Amandine Henry, Julie Le Sommer, Sarah Bouadi, pas mal de joueuses cadres des Bleus. Là, il y a encore donc
même apparemment avec l'encadrement au final.
Oui, avec effectivement l'encadrement. Et puis il y en a certains qui disent oui, mais c'est pas au rôle des joueuses de s'interposer et de décider un peu qui est leur entraîneur. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce point-là?
Mais le problème, c'est que ça va ouvrir un autre débat, mais ça marque clairement la fin de l'ère Le Graët, parce qu'il faut pas oublier comment aussi elle a été reconduite
grâce à Le Graët
sans l'aval du comité.
Comme pour Deschamps.
Voilà.
Comme ce qui avait été fait.
Et on est sur le même schéma. Et ça pose la question, du coup, à nouveau pour Deschamps, j'ai envie de dire. Puisque en termes de légitimité.
Voilà.
Parce que là, clairement, on peut considérer ça comme un peu du copinage. Si je m'entends bien avec toi, tu me fais pas trop chier. Hop, vas-y, je te laisse. Après, ça avait déjà explosé avant qu'elle soit reconduite. Il y a déjà eu des histoires. Par le passé, quand elle entraînait à Clermont, on sait qu'il y a eu aussi des histoires.
Ouais.
Donc, au final, qu'elle soit démise ses fonctions pour ces motifs-là, qu'il y a des incompréhensions avec les joueuses, ça me paraît logique.
Ouais.
Ah, si c'est pas les joueuses qui disent quelque chose, c'est qui va le dire, au final.
Oui, mais t'as raison.
C'est parce que dans ce cas-là, techniquement, le président, il a rien à dire.
Bah oui,
lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a des matchs, il y a des résultats. Il va pas faire avancer les choses. Donc au final, je trouve ça normal aussi que les joueuses, elles aient un rôle là-dessus, de dire, bah voilà, on peut plus mentalement et physiquement continuer avec quelqu'un qui voilà nous apporte rien.
Sportivement et humainement. Voilà.
Là aussi, ça fait débat parce que on est à quelques mois d'une Coupe du Monde.
Bien sûr. Prochain rassemblement en début avril, déjà.
Mais quand on voit le tournoi de France qui a eu lieu.
Ouais. À Angers, notamment.
Oui. Il y a eu, quand même, apparemment, des grosses incohérences.
Ouais, tactiques.
Sur des titularisations.
Ouais.
Apparemment, la meilleure joueuse actuelle du championnat de France ou, en tout cas, la joueuse française qui était le plus
en forme
du moment. Elle a passé son temps apparemment sur le banc de touche.
Ouais.
Dans ce cas-là, pourquoi tu la convoques?
Ouais.
Parce que un tournoi comme ça, on peut se dire ok, je convoque des joueuses qui sont jamais venues, je teste.
Ouais.
Moi, je comprends très bien. Mais là, tu fais pas venir quelqu'un qui est potentiellement titulaire indiscutable pour juste cirer le banc.
Ouais. Pour 3 matchs en plus.
Voilà.
Pas pour 2 seulement. Toi, Faustin, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que si on arrive à un point où c'est les joueuses qui sont obligées de se rebeller, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va plus du tout, tu vois. Je pense qu'elles savent faire la part des choses, savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais surtout
elles font pas ça de bon cœur, quoi.
Voilà, c'est ça. Elles savent que
la situation est critique.
Exactement. Que c'est aller trop loin, que c'est pas normal ce qu'elles subissent avec ce coaching que Corinne Diacre exécutait.
Ouais, effectivement. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que faut pas rentrer dans ce délire où ce sont les joueuses qui ont décidé. Je pense que bon, les joueuses effectivement ont fait pression et je pense que elles ont pas fait ça comme ça juste parce qu'elles voulaient changer d'entraîneur. Ouais, parce voilà. que ça leur voulait. Je pense que Corinne Diacre, on verra ce qui est exposé. Évidemment, elle se défend, mais je pense que Corinne Diacre, elle a ce management un peu dur, tout en ayant une incompétence footballistique certaine. Donc je pense que ce sont des choses que les joueuses ont vues. Et aujourd'hui, quand on est dans un pays comme la France, où le foot féminin est quand même... ou en tout cas, où la France fait partie dans le football féminin d'un pays précurseur, je pense qu'on doit avoir un minimum de niveau. On ne doit pas perdre en demi-finale de l'Euro. On ne doit pas faire quart de finale chez nous lors du mondial, et on doit arriver avec plein de certitudes à l'arrivée du mondial 2022. On a l'Olympique Lyonnais, le PSG qui vont souvent très loin en Ligue des Champions, et si l'équipe de France qui a des très bonnes joueuses n'est pas capable de faire des bons résultats, je pense que c'est assez alarmant. Et je pense de toute façon c'était une décision qu'il fallait prendre bien avant. Tu le disais, c'est pas normal de prolonger comme ça parce qu'on a bu un verre et que voilà, parce que c'est ce qui s'est passé avec Deschamps, c'était autour d'un repas à Guingamp chez lui, chez Noël Legrette. Allez hop, tout va bien.
C'est ça, mais enfin au-delà de ça, c'est surtout le fait que il y a normalement le comité qui est là pour en discuter.
Ah ouais, c'est ça, et que là pas du
tout. Et là à chaque fois, il y a pas de
le comité a bien discuté en tout cas la semaine dernière. Cas, ouais. Oui. Bref, en et tout cas, oui, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, mais dans la même continuité, cette semaine, pareil, ça a relancé le débat du départ de Benzema, avec les nouvelles déclarations de Deschamps,
ouais,
qui vont dans le sens « c'est pas moi, mais c'est lui ». Et on a vu la réaction de Benzema sur les réseaux.
C'est un menteur.
Clairement, c'est que ça va encore partir, voilà.
En cacahuète.
Et voilà. Et ça, oui. c'est, on reste encore dans la continuité hein, de ce qu'on a vécu pendant la Coupe du Monde.
Exactement. Et puis surtout dans ce qu'on voit dans la Fédération Française de Football.
On va attendre impatiemment, je pense, les futures élections de la FF, pour voir ce que ça va donner. Quoi.
Et pourquoi pas les déclarations de Karim Benzema. Pour fermer donc cette page football, on va passer maintenant au rugby, avec les rugbymen français qui défiaient les Anglais à Twickenham pour un crunch qui promettait fortement pour cette quatrième journée du tournoi Destination 2023. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Bleus n'ont fait qu'une bouchée du 15 de la Rose et l'a humilié chez lui dans son mythique stade de Twickenham. 7 essais inscrits pour un seul encaissé et un large succès bonifié 53-10. Avec cette éclatante victoire, les Français reviennent à 4 points des Irlandais. Avant la dernière journée prévue la semaine prochaine, les hommes de Fabien Galthié défieront les Gallois au Stade de France juste avant que le 15 du trèfle ne soit opposé à l'Angleterre. Alors, pour imaginer les Français se succéder à eux-mêmes, il faudrait un scénario peu probable, mais pas impossible. Dans l'idée, les Français doivent à tout prix gagner avec bonus et voir dans le même temps les Irlandais perdre à domicile et effectivement de préférence sans bonus. Alors évidemment, en gros, pour expliquer à nos auditeurs qui seraient pas très aficionados du rugby, 4 points, une victoire vaut 4 points au rugby. Un point plus, évidemment, avec bonus offensif. Alors, je connais pas vraiment les détails pour un bonus offensif, mais en gros, faut marquer beaucoup de points. J'imagine que c'est ça.
C'est ça, c'est par rapport au nombre d'essais.
Ouais, c'est ça.
J'ai plus le nombre en tête, mais...
Il me semble que c'est 3.
C'est 3, mais je crois que t'as quand même la différence. Faut pas que t'en encaisses dans le même temps. Enfin, parce que t'as aussi le bonus
défensif. Voilà. Donc si l'Irlande venait à perdre le match, il faudrait pas qu'elle obtienne justement ce bonus défensif. En tout cas, voilà, ça se jouera sinon s'il y a égalité dans des goals à verrage, enfin des points à verrage, des choses comme ça. Donc évidemment, on suivra ça. En tout cas, c'était une très belle perf. On avait été un peu inquiété contre l'Écosse. L'Italie, c'était un peu poussif. Et là, c'est une victoire qui fait du bien, messieurs, selon vous ?
Ah bah surtout un crunch. Hein.
Ah, la manière, à Twickenham.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en plus de la grosse victoire, il y a la manière et pas n'importe quelle manière. C'est vraiment
un gros écart.
Voilà, un énorme match qu'ont fait les Français. Surtout vu ce que, comme t'as dit, les performances avant qui laissaient à désirer, les revoir revenir dans cette forme, ça fait grandement plaisir et c'est encourageant pour la suite. Quoi.
À quelques mois de la Coupe du Monde, Cédric, t'en penses quoi, toi ?
Bah, c'est C'est sûr, de toute façon, on aime bien taper sur nos amis anglais. Mais là,
on l'a fait à la Coupe du Monde de foot aussi.
Mais là, oui, non, en tout cas, c'est vraiment, en fait, c'est le symbole, surtout de l'endroit où c'est arrivé, quoi.
Ouais. C'est quasiment... Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas gagné là-bas?
Ah, je sais plus.
C'est une dizaine d'années, un peu plus même.
Enfin, c'est voilà, on parle de stade mystique pour le rugby, c'est vrai que par l'ambiance, par tout.
Ouais.
Voilà, et de s'imposer, mais surtout de la manière. Et
ouais.
C'est rare quand même que ça se joue avec un score fleuve, quoi.
Ouais.
Non, en tout cas, voilà, ça rassure, en tout cas, sur la préparation pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Voilà, on va
d'avoir ce gros succès.
Une défaite en soi, c'est bien, parce que quelque part, ça peut-être remotivé les joueurs et le staff.
Ouais.
Bon, je crois que sur ce match-là où il y a la défaite, il y a eu aussi des blessés.
Ouais.
Qui sont revenus entre-temps, donc ça a peut-être fait aussi la différence d'avoir une équipe assez solide. Donc...
cette défaite en Irlande, elle permet d'avoir de l'humilité, de pouvoir bosser.
C'est ça. Après,
de pouvoir,
voilà.
Et à côté, 4 victoires qui font du bien aussi.
Et puis voilà, enfin, ça va pas remettre en cause, je pense, le statut de favori pour aller au moins en quart de finale. Alors, attends, parce que c'est poule, peut-être 8e direct après.
Ouais, je pense.
Ouais, c'est ça. Voilà, donc on est...
Ouais, quart ou poule. Quart ou huitième. Bon, on verra.
En tout cas, enfin...
On aura le temps d'en parler.
Ça nous met dans les favoris pour y aller, quoi.
Effectivement. Faustin, on va passer au basket maintenant avec la Betclic Elite.
Ouais.
Et la saison régulière qui se poursuit.
Exactement, et on a eu le droit à un énorme match entre Dijon et Fos-sur-Mer. Le match était sur le papier en tout cas, au profit des Dijonais. Cependant, les Fosséens ont su créer la surprise au terme d'une grosse fin de match dans laquelle les Dijonais menaient de 9 points à 8 minutes de la fin, ont bien failli revenir à hauteur des Fosséens, mais se sont cependant tout de même inclinés 97 à 95. Ensuite, l'ASVEL continue sa série de victoires en Betclic Elite en s'imposant contre Nanterre lors d'un match qui avait lieu à Paris, la Défense Arena. Je sais pas si vous avez vu peut-être des images de ce match, mais c'était un peu perturbant à regarder parce qu'en fait la salle était super sombre et on voyait que le parquet et les joueurs.
Ah.
On voyait pas du tout les tribunes autour, même les bancs, on les voyait à peine.
Particulier.
Et ouais, voilà.
Ah, je peux leur proposer une solution.
Vas-y.
Mais il faut faire des matchs comme à la WWE avec des peintures fluorescentes sur les joueurs.
Ah, et, ah oui, à ce moment-là. Pour convoquer un peu mieux.
Ouais, ça pourrait être pas mal.
Donc voilà, au terme de ce match, c'est les Lyonnais qui en sont sortis vainqueurs sur le score de 80 à 62. Je vais maintenant passer à l'Euroleague, nouvelle semaine et encore le même scénario pour nos clubs français, car on a eu le droit à une nouvelle victoire de Monaco sur le score de 102 à 93 contre le club basque de Baskonia, et aussi une nouvelle défaite pour l'ASVEL qui contrairement à la Betclic Elite n'y arrive vraiment pas cette saison en Euroleague. Ils ont donc perdu 85 à 67 contre le club lituanien du Žalgiris de Kaunas. Pardon,
c'est compliqué à prononcer. On termine par la NBA.
La NBA, ouais. Après des débuts flamboyants à Phoenix, KD est retombé dans ses travers en se blessant à la cheville à l'échauffement avant un match. Sa blessure risque de l'immobiliser pendant 2 semaines, ce qui lui permettra tout de même de revenir en forme pour débuter les playoffs qui auront lieu, qui débuteront le 15 avril. Si vous vous demandez pourquoi Kevin Durant se blesse tout le temps, eh bien tout simplement parce qu'il ne fait pas ses lacets et qu'il ne serre quasiment pas ses chaussures quand il joue. Donc bah forcément, okay, ça fragilise
sa cheville
bah, qui tourne régulièrement. Ouais. Il fait ça pour garder une mobilité dans son pied. Il dit qu'il aime bien ça. Donc bon, c'est assez spécial. C'est le seul à se faire.
J'espère que tu fais pas ça toi.
Non, moi je les serre bien comme il faut pour être sûr de pas me faire les chevilles.
Ouais.
À part ça, comme je le disais, dans un mois débutent les playoffs. On sait déjà que 3 équipes n'y participeront pas. Ce sont Houston, les Spurs de San Antonio et les Detroit Pistons. Ces 3 équipes restent cependant coude à coude pour savoir qui finira dernier et aura donc le plus de chances de récupérer le premier choix de draft pour ainsi récupérer donc Victor Wembanyama.
Eh oui.
Si même si cette année, un deuxième choix de draft, ce serait Scoot Anderson, un Américain qui est extrêmement fort aussi, qui sans Victor Wembanyama aurait été certainement premier dans n'importe quel autre draft.
Ça marche. En tout cas, bah, merci pour ce point basket. On va continuer avec la boxe après une première défaite chez les professionnels il y a quelques mois. Tony Oka jouait véritablement son avenir dans le monde de la boxe ce samedi soir au Zénith de Paris contre le franco-marocain de 42 ans Carlos Takam. Le champion olympique de Rio 2016 a été mis en difficulté tout au long du combat et a dû s'incliner au point au bout du 10e round. Cette deuxième défaite inquiète beaucoup pour le français qui voit son avenir dans la boxe être dans le flou. Cédric, tu voulais revenir sur son match, du coup tu as pu y jeter un œil peut-être.
J'ai rompiche.
Ouais. T'as dormi pendant
non,
le
mais franchement, c'était pas loin quoi. On s'est enfin moi je me suis ennuyé devant ce match là.
Ouais.
Quand tu vois, il a un adversaire qui a un beau parcours hein,
mais qui a expérimenté
qui est expérimenté, qui a 42 ans.
Oui, c'est ça. Qui a 42 ans.
Mais bon, qui a boxé les plus grands voilà. Ouais. Qui sont encore là. On sait que normalement, en face, il doit être explosif, il doit être rapide.
Ben ouais.
Et là,
rien du tout.
Rien du tout. J'ai trouvé un.
Et aucune réaction. Ouais. Ouais, il n'y a rien.
C'est simple, il y a un moment, ils ont annoncé sur Canal que c'était la fin de la septième. Ouais. J'étais en mode, hein, il s'est planté, là, c'est la cinquième. Ouais. Tellement que le. Enfin, c'était.
Il n'y avait, lent,
pas, y avait pas d'action.
Rien,
c'était fort. Il y a deux, trois fois où c'était chaud, hein, puis ça a bien tapé.
Ah oui, il termine avec un gros cocard déjà.
L'arcade, ouais. Elle a été ouverte, oui, ça a saigné. Mais il était pas loin de tomber. Voilà, donc un an de préparation à Las Vegas.
Ouais.
Il a fallu qu'il convainque son entraîneur. Son entraîneur était pas forcément très chaud pour aller là-bas. Clairement, moi, je le vois mal maintenant aller chercher un titre.
Ouais, tu penses que c'est parce que
ça va
justement
être compliqué. Enfin,
dans les médias, ça parlait, même lui-même parlait d'un match pas à la vie à la mort, mais en tout cas, voilà, qui allait être déterminant pour la suite de sa carrière. On sait qu'il avait cette fameuse conquête. Il y avait toute une com.
Oui, mais
de ça.
Enfin, après, il faut pas oublier que c'est Canal qui est derrière. Qui
oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais
devant l'événement international comme ça.
C'est mais... ça, ouais. Mais en tout cas, la conquête, c'était son objectif pour arriver à boxer des gros boxeurs. Y aller étape par étape. Donc, ça a marché avec à peu près une dizaine de boxeurs, hein, une dizaine de combats gagnés.
Oui,
contre des adversaires. Voilà, c'était souvent aussi le problème avec Yoka. On plaisantait un peu en disant que c'était pas des gros adversaires.
C'était du show d'exhibition, j'ai
ouais,
envie de dire.
Et là, on tombe sur deux adversaires qui ont été, enfin, qui ont été plus forts que lui, sans être non plus des Anthony Joshua ou des Tyson Fury, quoi.
Bah, puis là, franchement, je le vois mal. Enfin, Fury, en face, il l'allume en deux, trois rounds,
ça,
hein, ouais, si c'est pour le premier. Quoi,
bah, c'est, oui, c'est ça. Ça va être problématique. Il y a un mauvais enchaînement quand même parce que Yoka est juste après Gann.
Ouais,
le sport de combat français.
Pour ceux qui aiment la boxe
et la MMA.
Et la MMA, tu te lèves le week-end d'avant à 6h du mat pour 2 minutes. Là, ça va, c'était 22h30.
Ouais, ça termine vers minuit, ouais.
Bon, toi là, t'es un samedi soir, mais tu fais, ouais, bah en fait, mon samedi soir, j'aurais pu le passer à autre chose.
Ouais,
quoi,
c'est
mais,
ça, ouais.
Mais franchement, moi, j'avais deux écrans parce que il y avait rien de personnel.
Moi, pour tout vous dire, moi, j'étais au bar pour la fin du match.
Ah ouais.
Et je me suis rappelé qu'il y avait Yoka, je me suis mis le match vite fait et c'était la fin. Et je voyais qu'il avait une sale tête, comme on dit.
Ah
et
oui.
Et puis
non,
je vois surtout la victoire au point après.
Et puis encore, la victoire, elle doit pas être au point. Elle doit être au point parce qu'ils ont été jusqu'à la dixième. Mais elle doit être largement plus large que ce qu'a annoncé
avec ses ambitions.
Les arbitres, hein.
Moi, c'est ça qui est assez choquant, c'est que Yoka, c'est un mec surtout qui avait de l'ambition.
Oui.
Et qui se retrouve à deux défaites de suite, face à des boxeurs qui ne sont pas encore des grands noms, même si Carlos Takam a une grosse expérience. Il a 42 ans.
Il a 42 ans, c'est ça. Enfin, ça reste
Yoka,
quand même un beau bébé.
Qui
a encore de la patate, hein,
ouais,
ça.
Ouais.
Par contre, alors, on va dire le côté positif, c'est qu'il a réussi quand même à encaisser les coups.
Pendant 10 rondes.
Voilà. Au moins, là-dessus,
c'est
on va dire, c'est un peu positif.
Ouais.
Mais il a jamais réellement sorti sa boxe, quoi.
Ouais, voilà pour Tony Yoka, tout ce qu'on pouvait dire sur le boxeur français. En tout cas, voilà, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Un petit pointage au niveau du score pour le match des Ducs d'Angers. Vous le savez, en ce moment même, c'est le match, on peut le dire, décisif entre les boxeurs de Bordeaux et Angers, puisque si les Angevins gagnent, ils sont qualifiés. Oui, tu me disais. Oui,
la belle transition.
Il y a but.
On passe de la boxe au boxeur.
Oh, ça c'est une belle transition. En tout cas, toujours 0-0 pour l'instant. 2 minutes de pénalité pour les deux équipes. Voilà, donc ça revient très fort au niveau de l'intensité dans ce match. Et donc on verra si
en plus pénalité pour dureté. Donc
oui, dureté. J'ai appris que ça voulait dire que c'était
ça frotte un peu. Hein.
Ça fait bagarre, comme on dit. En tout cas, voilà. Donc, on va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite, une rediffusion de l'émission Les Plantes Vagabondes. Nous, on se retrouve donc semaine prochaine pour parler de sport local, sport international, vous en avez l'habitude. Et puis, la semaine prochaine, on vous redira si on a des invités. En tout cas, la semaine d'après, on aura, c'est sûr, l'UFAB 49 qui sera avec nous pour parler de basket. Et puis, déjà, voilà, on vous souhaite une bonne soirée sur les antennes de Radio G.